France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
La formation en révolution, histoire de l'ingénieuse école polytechnique, une histoire qui débute sous l'Ancien Régime avec l'école des ponts et chaussées, l'école des mines, l'école d'application de l'artillerie et du génie, une histoire qui se poursuit sous la Révolution avec l'école normale, le Conservatoire national des arts et métiers, l'école spéciale des langues orientales et bien sûr, l'IX Polytechnique.
A plus mu sur m fois v plus k sur m fois x égale la force sur m cosinus oméga t.
Et si tu fais l'analogie avec un montage électrocinétique?
Du coup, c'est pareil que l'équative de la charge dans un circuit avec bobine, condo, résistance à un générateur alternatif de période oméga t.
Et après, tu vises quoi?
Les écoles. Je suis là pour les maths. Et toi?
Polytechnique ou normal sup? Enfin, plutôt normal. L'armée, rien que d'y penser, ça me saoule.
L'armée?
Ouais. Polytechnique, c'est militaire. T'as jamais vu les photos de leur défilé ?
Le cours de l'histoire.
La Voie Royale, c'est un film de Frédéric Mermoud en 2023, sublime film. Hervé Joly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS en histoire contemporaine. Et Bruno Bellos, bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite d'histoire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Polytechnique, c'est militaire. Vous avez vu les défilés ? C'est ce qu'on entendait là dans l'extrait du film. Hervé Joly, est-ce vrai ?
Alors l'école effectivement est sous la tutelle du ministère de la Défense, pas tout à fait depuis l'origine, ça avait été un petit peu plus compliqué au départ, il y avait une double tutelle avec le ministère de l'Intérieur qui à l'origine s'occupait de l'instruction publique, mais depuis 1830 l'école en gros était sous la tutelle exclusive du ministère de la Guerre puis de la Défense, sauf la parenthèse de Vichy, où là, elle était redevenue civile. Mais il faut bien dire que l'école polytechnique est une école militaire très particulière, puisque elle forme aujourd'hui très peu de militaires. Une minorité des élèves rentre dans l'armée, et encore dans une armée un peu particulière. Il s'agit essentiellement de la direction générale de l'armement, qui sont plutôt des ingénieurs que des officiers classiques. Mais l'école a toujours gardé cette tutelle. Alors ça fait débat. Régulièrement, cette tutelle est mise en cause au regard des bouchers essentiellement civils de l'école. Mais l'école et les anciens élèves, etc., ont toujours cherché à garder cette tutelle du ministère de la Défense et de ne pas dépendre de l'ensemble de l'enseignement supérieur et de son ministère. Probablement parce que il y a quand même quelques avantages. Le ministère de la Défense n'est pas le ministère le plus pauvre et que c'est probablement plus intéressant d'être l'école de prestige du ministère de la Défense que d'être une école parmi d'autres de l'enseignement supérieur et de la recherche qui n'est pas forcément dans une situation budgétaire florissante dans son ensemble.
C'est bien de le rappeler, Hervé Joly. C'est important aussi, Bruno Bellost. Est-ce que l'école polytechnique est un produit de la Révolution, pur produit de la Révolution française ?
Oui, on peut dire ça, puisque elle est née en 1794, donc elle est vraiment, de ce point de vue-là, une institution révolutionnaire. En même temps, elle n'est pas née de rien, et elle s'inscrit, vous l'avez évoqué d'ailleurs, dans une longue tradition. Donc c'est ça d'ailleurs, à mon sens, si on regarde les choses sur la longue durée, d'un point de vue historique... Petite incise, l'école polytechnique, c'est une vache sacrée. Hein. Je ne sais pas pourquoi Pierre Nora n'avait pas mis dans les lieux de mémoire. Mais voilà, elle aurait eu parfaitement sa place. Donc c'est une institution qui porte l'histoire de France, si je puis dire. Et donc, c'est un topos bien connu. L'histoire de France, c'est l'Ancien Régime, c'est la France éternelle, et en même temps, c'est la Révolution. Et ben voilà, l'école polytechnique, c'est ça aussi.
Avec cet héritage d'Ancien Régime, hein, parce que j'évoquais d'autres écoles, l'école des ponts et chaussées à 1716, l'école des mines 1783, l'école d'application de l'artillerie et du génie au milieu du XVIIIe siècle. Nous avions quand même, sous l'Ancien Régime, évidemment, des écoles pour former qui ? Est-ce former des militaires ? Est-ce former des ingénieurs ?
Alors, des ingénieurs, pour l'essentiel, des ingénieurs de l'État et pour l'essentiel des officiers ingénieurs de l'artillerie et du génie, donc ce qu'on appelait les armes savantes, donc des armes avec une dimension technique forte, et puis pour une partie aussi des ingénieurs civils de l'État, avec les ingénieurs des mines et les ingénieurs des ponts et chaussées.
Et parce que c'est alors, ça, il faut construire des routes.
Alors moi, je dirais quelque chose, c'est évidemment ce qu'a dit Julie est parfaitement juste, mais moi, je dirais, l'école polytechnique sort du concours. Et le concours, c'est quoi ? C'est le concours que Vauban avait créé pour le recrutement des corps des ingénieurs du génie qui étaient en train de se mettre en place. Et donc, le corps des ingénieurs du génie, au départ, c'était un peu des civils, mais ils sont devenus des militaires, des officiers du génie. Et le système du recrutement par concours, il a été d'abord un système de recrutement des écoles militaires. Donc c'était l'artillerie, c'était le génie maritime qui est apparu aussi. Et par exemple, l'école des ponts et chaussées, qui existait auparavant aussi sous l'Ancien Régime, ne recrutait pas par ce système de concours. Donc pour moi, la racine de l'école polytechnique, c'est quand même le concours. Et quelque part, ça reste toujours le concours.
Dans les écoles d'Ancien Régime, j'imagine qu'il fallait être noble pour espérer faire une carrière dans l'armée. Et donc, passer par ces écoles, était-elle ouverte à ceux, et je ne dis même pas celles, qui n'étaient pas nobles ?
Ah oui, on pense quand même en partie. Au moins, alors on a eu un travail récent sur l'histoire du corps des ponts et chaussées avant l'école polytechnique, qui montre quand même qu'il y avait une certaine diversité de recrutement dans, bon, évidemment, les catégories supérieures de la société. On était rarement enfants de paysans, mais il y avait quand même un. Alors, je sais moins pour l'artillerie et le génie. Il y avait quand même un petit peu de diversité. Ça n'était pas exclusivement réservé aux nobles, mais au moins.
Disons, pour enfin, ce qu'a dit Hervé Joly est parfaitement juste. Pour l'école des ponts et chaussées, ça recrute, disons, dans les milieux roturiers. Mais les écoles militaires, qui, à mon sens, c'est quand même de là que ça sort, comme vous l'avez dit, recrutent sur concours, enfin je l'ai dit, mais aussi, évidemment, avec des preuves de noblesse. Donc on a un double mérite, si je puis dire. On a le mérite de la naissance, plus le mérite de l'excellence. C'est ça qui caractérise vraiment l'esprit de ce qui va devenir l'école polytechnique, en fait.
Oui, parce que l'école polytechnique naît en 1794. Vous nous avez dit dans quelle ambition l'idée est que, dans les premiers temps de la Révolution française, ces écoles d'Ancien Régime sont complètement chamboulées, chahutées, voire disparaissent. Il faut recréer quelque chose, c'est ainsi qu'il faut le penser.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bon, toutes ces écoles, bon, c'est la Révolution, beaucoup de la guerre, très vite la guerre, et énormément d'officiers savants, en particulier des artilleurs, des gens du génie, vont partir en émigration, ou vont se retirer. Donc il faut recruter énormément. Donc c'est un très bon contexte pour quelque chose qu'il faut ajouter maintenant, enfin que je souhaiterais ajouter maintenant, qui est absolument fondamental, c'est l'entrée des hommes de science, l'entrée des savants. Celui qui va créer l'école polytechnique, celui qui va la concevoir, c'est un grand mathématicien, c'est Gaspard Monge. Donc ça c'est très important.
L'arrivée des savants dans cette histoire-là est un nom, Monge.
Monge personnifia l'esprit démocratique qui fut toujours celui de l'école. À une époque où la naissance était le principal titre pour une carrière officielle, ce fils de rémouleur bourguignon sut s'imposer par ses seuls mérites. Un autre a dit qu'à 22 ans, étant professeur à l'école du génie de Mézières, il inventa la géométrie descriptive qu'il enseigna à Carnot et qui fait encore partie du programme de nos classes de taupes. Un autre a parlé de sa découverte des lignes de courbure des surfaces, de ses recherches sur les équations des surfaces d'après leur mode de génération, et dont l'immortel Lagrange lui-même disait « Avec son application de l'analyse à la représentation des surfaces, ce diable d'homme sera immortel. » Pour moi, je me contente d'évoquer cette grande mémoire et de noter que le bicentenaire de Monge tombe au moment où va se célébrer le 151e anniversaire de l'école dont il est le père. Ses fils spirituels n'ont jamais oublié que leur ancêtre adopta d'enthousiasme les principes de 1789 mais qu'il chercha toujours à les faire servir à l'intérêt, voire au salut de la patrie. L'histoire montre qu'ils ont toujours suivi la trace de ce grand révolutionnaire. Ils veulent rester fidèles à son exemple.
Nous étions en 1946, le général Blanchard, polytechnicien évidemment, et qui à ce moment-là est officier général des anciens élèves de l'école polytechnique, et qui évoque Gaspard Monge, Hervé Joly. Ce que nous avons dit tout à l'heure, le fait que des scientifiques soient à la tête et à l'origine de l'école polytechnique sous la Révolution française, marque aussi l'histoire de cette institution dans la longue histoire de toutes ces autres écoles que nous avons déjà évoquées.
Oui, alors l'école, effectivement, accueille et compte de nombreux scientifiques dans ses rangs, aussi bien parmi les enseignants et les élèves, mais en même temps, c'est pas complètement une école de la science. C'est-à-dire que, par exemple, pour enseigner à l'école polytechnique, il faut pas forcément avoir un doctorat. L'enseignement à l'école polytechnique n'est pas le recrutement des enseignants à l'école polytechnique n'est pas aligné sur celui des universités. L'école polytechnique elle-même ne délivre pas directement de doctorat, et donc il y a toujours ce jeu entre à la fois quand on recrute les enseignants, on cherche à avoir des savants, des enseignants prestigieux, mais il y a aussi cette préoccupation de formation appliquée au corps dans les débouchés. Donc on va aussi avoir dans les enseignants des officiers généraux de l'armée, des ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, enfin des gens qui ne sont pas forcément des savants académiques.
Quand on se place en tant que jeune homme sous la Révolution française, au moment de réfléchir à ses futures études, quels choix s'offrent à nous? Alors l'université, je l'entends, sachant que sous la Révolution française, elles sont elles aussi chahutées. L'école polytechnique, c'est une formation généraliste en sciences. Elle est imaginée comme ça, cette école polytechnique, pour ensuite faire autre chose?
Oui, non, c'est un projet extrêmement ambitieux qu'avait donc Monge. C'était l'initiateur qui était effectivement, c'est d'ailleurs le polytechnique, le nom même le dit, de donner un enseignement de sciences générales, fondé quand même essentiellement sur les mathématiques, il faut bien le reconnaître, mais vraiment un enseignement très large et qui associait, ça c'est un point très important, qui associait les théories mathématiques, donc les théories mathématiques les plus avancées de leur temps. Donc ça, c'était absolument extraordinaire. Des choses qui n'avaient quasiment jamais été enseignées, comme le calcul différentiel et intégral. Et en même temps, un enseignement tourné vers les applications. Il s'agit de former des gens qui vont aller sur le terrain, qui vont aller sur le terrain très vite. Donc il y a cette ambition de former des gens qui vont être polyvalents, qui vont pouvoir travailler dans tous les domaines parce qu'ils ont une formation théorique de très haut niveau. Et ça, c'est un projet impressionnant qui va avoir un impact, pas simplement en France, mais c'est ça qui va faire la gloire, en fait, de l'école polytechnique. Et c'est pour ça qu'elle est restée fameuse. C'est pas tellement, il faut bien le reconnaître, pour l'école polytechnique d'aujourd'hui, mais pour ce rôle essentiel qu'elle a joué au tournant du 18e et du 19e siècle.
Avec un enseignement théorique et l'application, cela se déroule dans le même temps ou c'est successif ?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'école polytechnique, telle qu'elle est conçue, c'est un peu une école préparatoire aux écoles d'application. L'école polytechnique, on l'a dit, c'est d'abord un concours d'entrée, mais c'est aussi un classement de sortie. Et qui va être absolument d'importance considérable, puisque c'est ce classement de sortie qui détermine l'entrée dans les différents corps, et avec, chez les élèves, des ambitions très inégales d'accès à ces corps. C'est-à-dire qu'il y a des corps beaucoup plus prestigieux que d'autres, et de manière paradoxale, les corps les plus prestigieux, ce sont les corps civils, alors que l'école est militaire. Mais en fait, l'objectif de l'essentiel des élèves, tout au long du 19e siècle et encore largement au 20e, c'est d'échapper au corps militaire. Et donc, l'enjeu à Polytechnique, c'est de sortir suffisamment bien classé pour sortir ce qu'on appelle dans la botte, qui en gros, selon les promotions, les 30, 40 premières places, qui permettent d'entrer essentiellement au corps des mines et au corps des ponts et chaussées, et d'éviter ce qui apparaît à beaucoup d'élèves comme une catastrophe, aller dans l'artillerie ou le génie, ce qui est quand même paradoxal pour une école militaire.
Ah oui, c'est drôlement paradoxal ça, parce que la Révolution crée cette école, 1794, une école polytechnique, avec ici cette chronologie très rapide hein, entre la création et puis la formation des jeunes gens. Le monde a déjà changé très rapidement. À quel moment voit-on un aspect beaucoup plus militaire apparaître avec cette école polytechnique?
Bon, en fait, ça va, effectivement, comme vous l'avez dit très justement, ça va très vite, en fait. Donc, l'école est créée comme une école civile. C'est une école civile, hein. C'est pas une école militaire. D'ailleurs, elle s'appelle pas l'école polytechnique au début. Elle s'appelle l'école centrale des travaux publics. Et, en fait, les corps, les artilleurs, etc., sont pas du tout contents, tous ces gens-là. Donc, ils vont obtenir, donc c'est après Thermidor, ils vont obtenir un réarrangement. Et donc, effectivement, créer ce système à deux niveaux, où l'école centrale des travaux publics, devenue école polytechnique, et l'école préparatoire, plus vers les choses théoriques. Et ensuite, on a les écoles dites d'application, où les élèves vont devenir des ingénieurs des mines, des ingénieurs... Et finalement, tout ça, ça va être couronné par quelque chose de très important, qui va être Bonaparte, Napoléon, qui en fait une école militaire, mais c'est simplement en 1805.
Ah oui, c'est beaucoup plus tard, hein, 1805, sachant que l'école polytechnique a déjà plus de 10 ans, oui, à 11 ans. Et dans cette réflexion que nous avons, moi j'entends bien qu'il faut un concours pour entrer à l'école polytechnique, qui ensuite va nous conduire, selon notre classement, vers d'autres univers. Mais avant même le concours, y a-t-il déjà des classes préparatoires? Parce qu'il faut bien le préparer, ce concours.
Oui, oui, il y a des classes préparatoires, mais alors avec un système très complexe, différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, puisque en fait, le concours était essentiellement oral, était exclusivement oral, même pendant très longtemps, et les classes préparatoires de lycée ne préparaient pas ce concours. Il fallait des préparations privées complémentaires qui, elles, préparaient la partie orale du concours.
Ah oui, c'est ça, hein, ce système-là de classe prépa pour préparer le concours.
Donc pour moi, c'est mon interprétation, le concours est central, comme je l'ai dit au début. Donc effectivement, déjà avant, puisque quelque part, c'est ça la matrice de l'école polytechnique. Donc déjà avant, il y a des sortes de prépa, en fait, pour entrer dans le corps de l'artillerie, pour entrer dans le corps du génie, etc. Il y a déjà des sortes de prépa. Et lorsque l'école polytechnique va être créée, là, on va avoir des prépa, le concours est difficile, le système des prépas se multiplie, et lorsqu'en 1802 sont créés les lycées, on crée des classes qu'on appelle des classes de mathématiques spéciales, le nom est toujours utilisé aujourd'hui, même si c'est plus le nom officiel, pour former des élèves qui vont passer le concours. Donc la création des lycées est assez étroitement liée, en fait, à la création de l'école polytechnique.
Et la création des lycées, c'est 1802, avec le premier consul Napoléon Bonaparte. Quant à Polytechnique, ça y est, le nom est là déjà, Polytechnique.
Ah oui, c'est en 1795. Un an après ça, en 95.
Demeure la question du X.
Le symbole traditionnel de l'X désigne aussi bien l'école polytechnique elle-même que ses élèves ou anciens élèves. Près de 2000 candidats issus de toutes les taupes de France, c'est-à-dire des classes de mathématiques spéciales des lycées et collèges, affrontent chaque année le concours d'entrée. 300 seulement sont reçus.
Et une fois franchi l'obstacle redoutable du concours, que devient notre jeune polytechnicien ?
Eh bien, conscrit d'abord en première année, ancien ensuite en deuxième année, il va pendant 2 ans s'adonner essentiellement à l'étude des disciplines scientifiques. Il le fera, et c'est là une des originalités de l'école sous le régime militaire, seul régime compatible à l'âge d'homme avec le strict internat auquel sont soumis les élèves. Ce cadre développe parallèlement aux qualités de l'intellectuel celles de l'homme d'action. Il contribue à la formation générale de l'individu, il impose une discipline de vie, il nivelle par l'uniforme les conditions sociales, enfin il libère l'élève de tout souci matériel. La vie collective, d'autre part, est génératrice de l'esprit de camaraderie qui est à la base de la solidarité polytechnicienne. Créée par la Convention en 1794, l'école compte parmi ses fondateurs les plus grands savants de l'époque, Monge, Lagrange, Ampère. Et c'est Napoléon qui lui donne le régime militaire. le premier drapeau de l'école avec la devise « Pour la patrie, la science et la gloire » a été remis par l'empereur à l'élève Arago, major de sa promotion.
Nous étions en 1961 avec le général Tissier, commandant de l'école polytechnique, qui évoque tout ce que vous nous avez dit. Nous avons l'importance du concours, l'aspect militaire que prend cette école sous Napoléon Bonaparte. L'X est évoqué, nous pouvons lui faire un sort. Hervé Joly, vous êtes l'auteur d'une histoire de l'école polytechnique publiée à La Découverte. Alors pourquoi X comme surnom ?
Oui, alors il y a pas mal de discussions là-dessus sur l'origine. Bon, c'est pas très très clair quand est-ce que ça commence, c'est la première moitié du 19e siècle. Apparemment, l'idée c'est l'importance des mathématiques, l'enseignement des mathématiques dans à la fois le concours d'entrée et la scolarité à l'école polytechnique. Les mathématiques sont la matière centrale de base qui complétée par d'autres disciplines scientifiques, mais c'est celle qui détermine le plus le recrutement. Donc voilà, c'est une référence aux compétences mathématiques des élèves.
Bruno Bellost, sur l'X,
c'est ça, je sais trop rien. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'argot polytechnicien. Ouais. Donc il y a plein de formules, dont certaines sont passées dans le langage des élèves. En tout cas, maintenant ça tend à disparaître, mais les taupins, les je sais pas quoi. Mais oui, c'est... Moi, je dirais que c'est plutôt dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais j'en sais trop rien.
Ouais, après, avec ici ce langage particulier qui crée les identifications liées à ces écoles, ouais. Mais mettre en avant les mathématiques, le dire aujourd'hui, c'est oublier ce contexte du 18e siècle, du début du 19e siècle, où dans la formation, les humanités étaient quelque chose qui était souvent mis en avant. Les mathématiques n'avaient sans doute pas dans la formation la même place qu'elles ont pu avoir par la suite.
Oui, alors il y a un paradoxe, c'est que l'école met l'accent sur les disciplines scientifiques à la fois dans son concours et dans sa formation, mais en même temps elle tient à recruter des élèves avec un profil littéraire. Par exemple, il y a des bonifications pendant très longtemps au concours pour les élèves qui ont passé le baccalauréat philosophie. Et d'ailleurs, on voit que tous les élèves ne sont pas forcément passés par le baccalauréat scientifique. Aujourd'hui, on sait que pour faire Polytechnique, il fallait faire l'ancien bac C, devenu bac S, et aujourd'hui les spécialités du nouveau bac en maths et en physique. Et bien, quand on regarde au 19e siècle, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves avaient fait un bac littéraire, dit philosophie, et que certains faisaient un bac dit mathélème, le bac scientifique, mais pas forcément. Ou alors ils faisaient les deux, ce qui leur permettait à la fois d'avoir avec mathélème la formation scientifique qui leur permettait de passer au mieux le concours et de bénéficier aussi des bonifications importantes dans l'optique du classement d'entrée, des bonifications données aux bacheliers littéraires. Donc voilà, et qui disait philosophie, issu des lycées classiques, disait aussi avoir eu une formation en latin. Bon, Polytechnique a fini par accepter des bacheliers de l'enseignement moderne sans latin, mais eux n'avaient pas de bonification, ils étaient désavantagés au concours, avec des conséquences sociales aussi, puisque les élèves de catégorie modeste, eux, passaient plutôt par le bac moderne et donc étaient désavantagés.
Avec, dans cette histoire-là, bien sûr, l'idée d'une formation d'élite, et ce sont des gens particulièrement bien formés. Bruno Bellost, vous êtes l'auteur de la formation d'une technocratie. Déjà dans le titre, on a un message, l'école polytechnique et ses élèves, de la révolution au Second Empire, dans la volonté de Napoléon Bonaparte de créer cette école militaire, et puis s'ensuit l'épisode napoléonien, marqué par de nombreuses guerres. Nous avons ici une école authentiquement militaire qui forme des militaires, ou alors Polytechnique conserve juste cette idée de formation pour ensuite envoyer ces gens très bien formés, parfois dans des corps civils et parfois dans des corps militaires.
Pendant la période napoléonienne, à cause des guerres, la plupart des élèves allaient dans les carrières militaires, mais même à cette époque, il y avait quand même des élèves qui allaient aux ponts et chaussées, qui allaient aux mines. Et puis après, Hervé Joly l'a très bien dit, l'école polytechnique forme surtout des militaires, mais en fait les élèves n'ont pas tellement envie d'y aller. Donc, et comme Hervé Joly l'a montré, beaucoup même qui deviennent des officiers militaires s'empressent très vite d'en sortir en fait.
Ah oui, c'est ça.
C'est un des paradoxes, il y en a beaucoup dans l'école polytechnique des paradoxes, mais en voilà. Hein.
Avec tous ces paradoxes ici, nous avons... un effet générationnel qui joue bien sûr, parce que au moment où quelqu'un entre pour suivre cette formation et le moment où il en sort se déroule plusieurs années. Combien de temps pour une formation ?
Alors, c'est pas si long, finalement. L'école polytechnique, ce n'est que 2 ans de formation. Alors, il y a eu des périodes où le service militaire était avant, le service militaire d'un an seulement, était avant, et d'autres où il était après. Mais la formation à l'école elle-même, c'est 2 ans. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, puisque l'école affiche une formation de 4 ans, mais la première année est essentiellement consacrée à une formation militaire ou par exception civile pour ceux qui ne veulent pas faire de formation militaire, c'est possible. Et puis, la 4e année se fait essentiellement en dehors de l'école. Donc, de toute façon, l'école, comme elle héberge ses élèves, elle n'a pas la possibilité d'héberger plus de 2 promotions en même temps. Donc, la scolarité à l'école, c'est que 2 ans. En pratique, presque 1 an et demi, parce que avec les vacances, etc. Donc, c'est quand même relativement court. Mais c'est une période très intense, très très dense, et qui constitue des identités de promotion quand même très fortes.
Bruno Bellos, au début du 19e siècle, ces élèves sont assimilés militaires au sens où, pendant les guerres napoléoniennes, il est imaginable qu'ils puissent combattre.
Non, je ne pense pas. Et, tant que je m'en souvienne, non, il faut qu'ils terminent leur formation. Et donc, une fois qu'ils ont terminé leur formation, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est qu'en principe, l'école polytechnique, et on l'a dit, hein, c'est l'école préparatoire. Et donc, les élèves vont ensuite, ça ne dure que 2 ans, mais ensuite, ils vont dans des écoles d'application. Et pendant la période napoléonienne, alors là, c'est vrai que le passage à l'école d'artillerie et du génie de Metz, ça allait très très vite, et hop, on partait dans la grande armée.
Oui, et puis il y a les moments exceptionnels comme en 1814 pour défendre Paris. Mais là, on est dans des moments exceptionnels, sachant qu'au cours du 19e siècle, ces élèves sont capables d'agir et pourquoi pas de prendre les armes au moment des révolutions.
Dans un chaos.
Avano, lors d'un concert donné par la promotion 2014 aux Invalides, sous la direction de Patrice Olinard. Ici, nous avons ce qui est devenu l'hymne de l'école polytechnique et qui évoque Louis Vano sur les barricades. Nous sommes en 1830, c'est la Révolution. Les polytechniciens agissent et ils agissent pour renverser le roi Charles X. Ils font preuve ici d'une action politique.
Ah oui, bien sûr. Il y a une tradition qui va au moins pendant la première moitié du 19e siècle. Mais bon, qui va quand même un peu se continuer d'une certaine façon. C'est, bon, l'école polytechnique est une école, je dirais, républicaine. C'est l'école qui est sortie de la Révolution. Et ça, c'est les élèves en sont. C'est une rupture par rapport à l'Ancien Régime. On évoquait les officiers qui sortaient de la noblesse. Là, il y a vraiment cet éthos révolutionnaire et qui, effectivement, va, comment dire, se manifester en 1830. Où les polytechniciens vont jouer un certain rôle, enfin vont sortir de leur... Ils sont casernés, ils sortent de leur école, qui est au milieu du quartier latin, à l'époque, et vont participer au combat. Et là, il y a ce jeune homme, ce jeune Vano, qui va être tué, et qui va devenir, une sorte de héros pour la tradition polytechnicienne jusqu'à nos jours. Ça chante toujours, effectivement. Au mois de juin dernier, par hasard, j'étais à l'école polytechnique et j'ai vu 200 polytechniciens en habit avec bicorne et compagnie et qui chantaient cet hymne.
Claude Avano. Parce que, il y a cet attachement à la Révolution française, l'école polytechnique fondée en 1794, mais comme d'autres écoles, hein, parce qu'il y a l'école normale supérieure, le conservatoire des arts et métiers, l'école spéciale des langues orientales, Hervé Joly. L'attachement révolutionnaire par l'école polytechnique, c'est quelque chose ici qui nous permet aussi de lire cette histoire-là, parce que dans la lecture que nous avons sur le temps long, nous voyons des gens en uniforme, issus d'un milieu souvent privilégiés en se disant ce sont des gens qui sont du côté de l'ordre. Ce qui serait une erreur en lisant l'histoire de l'école polytechnique depuis la Révolution française.
Oui. L'engagement politique des élèves polytechniciens est surtout marqué dans la première moitié du 19e siècle. Ensuite, c'est beaucoup moins net. Sous la Troisième République, par exemple, on a beaucoup moins d'engagement politique marqué. Bon, il faut savoir que les élèves de l'école polytechnique ont un statut d'élève officier, et ce qui implique un certain nombre de restrictions. Bon, les officiers n'ont pas le droit de vote jusqu'en 1945, les militaires de carrière en général, et ensuite, ils n'ont toujours pas, aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de syndicat étudiant à l'école polytechnique, puisque ils ont un statut militaire. Donc, on trouve ensuite relativement peu d'engagement politique des élèves. Si on prend des grands moments de l'histoire, si on pense à Vichy, si on pense à mai 168, les élèves de polytechniciens n'ont pas été des fers de lance des oppositions. Ils ont finalement, quand on regarde, il y a beaucoup d'agitation à l'école polytechnique, parce qu'on est encasernés, le conseil de discipline prend régulièrement des sanctions, etc. Mais ce sont des agitations très potaches. Elles sont, par exemple, en 1961, le ministre de la guerre qui vient visiter l'école polytechnique, encore sur l'ancien site de la rue Descartes, est accueilli par des rouleaux de papier toilette qui sont balancés des fenêtres. Ça fait un scandale extraordinaire. Les élèves sont à l'instigation de cette initiative sont sanctionnés, etc. Mais il n'y avait pas de véritable dimension politique. On était d'abord là pour s'amuser, quoi.
Et puis dans les moments d'agitation politique en France, il y en a un qui a particulièrement marqué la société, c'est l'affaire Dreyfus. Hervé Joly, vous avez écrit à Polytechnique X 1901, donc c'est la promotion 1901 de l'école polytechnique. Ils étaient l'élite de la belle époque. Qu'ont-ils accompli? Vous avez publié ça chez Flammarion. 1901, c'est encore l'affaire Dreyfus. Pareil, y a-t-il une prise de parole des polytechniciens au moment de l'affaire Dreyfus?
Non, pas très net. Du moins, au sein des élèves ou de l'école, il y a des oppositions. Il y a, par exemple, dans la promotion 1901 que j'ai étudiée, il y a un élève qui est impliqué dans un duel qui semble avoir une dimension politique, mais il n'y a pas de prise de position très très nette. Bon, il y a à cette époque-là pas mal d'élèves d'origine juive à l'école polytechnique, à la différence de l'autre école militaire de Saint-Cyr, où visiblement personnes d'origine juive hésitaient à candidater. Il y en a à l'école polytechnique techniques qui ne sont pas particulièrement discriminées. Il y a de très brillants élèves juifs qui sortent dans les premiers rangs au classement de sortie, etc. Mais on peut pas... Il n'y a pas de position politique très, très, très claire de l'école.
Alfred Dreyfus lui-même,
oui,
étant polytechnicien.
Oui.
D'ailleurs, changement de régime au 19e siècle, relativement fréquent, restauration, monarchie de Juillet, Second Empire, Bruno Belloste, l'école polytechnique demeure en fait, quels que soient les régimes, l'attachement républicain, on l'a bien entendu, avec la révolution de 1830, mais sinon, elle s'adapte aux différents régimes.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je signale qu'en 1830, les polytechniciens sortent de leur cadre pour participer à l'insurrection, mais en juin 48, ils sortent encore, mais pour réprimer l'insurrection. Donc, ils sont quand même un peu aussi du côté du parti de l'ordre. De toute façon, l'école polytechnique traverse tous les régimes.
Oui, voilà, à travers tous les régimes. Y a-t-il des évolutions, d'ailleurs, dans la formation? La forme qu'elle prend au début du 19e siècle demeure au long du 19e siècle?
Quand on étudie dans le détail, on voit plein de changements, c'est évident. Mais après, ça dépend de la focale. Mais c'est quand même ce qui, de mon point de vue, est quand même le plus impressionnant. c'est plutôt la stabilité, c'est plutôt l'immobilisme. Moi, dans mon bouquin, au début du livre, je dis, j'ai fait une phrase provocatrice, je dis « l'école polytechnique n'a plus d'avenir ». C'était il y a 20 ans. J'avais complètement faux. Voilà, l'école polytechnique existe toujours, devra sans doute exister encore. Ça bouge pas. Hein. C'est quand même ça qui est absolument frappant. C'est l'immobilise de cette institution.
Oui, mais Bruno Bellost, à part cette phrase, votre formation d'une technocratie, l'école polytechnique et ses élèves de la Révolution Second Empire demeure valable. Hein, je le dis parce que c'est une erreur d'analyse. Non, mais c'est ça, Hervé Joly. Bah, vous aussi, vous avez écrit l'histoire de l'école polytechnique. C'est une école de la stabilité aussi à travers
les régimes. Alors les permanences sont assez frappantes, notamment dans l'importance du concours d'entrée, l'importance du classement de sortie, qui est un petit peu relativisé aujourd'hui, mais par exemple, le prestige du corps des mines à la sortie reste largement intact, et ce sont toujours les meilleurs élèves qui rentrent dans le corps des mines. Bon, il y a quand même un changement majeur après 68. Alors, j'ai dit que l'école avait pas été sur les barricades en 68, mais elle a quand même été secouée par 68. Les élèves ont été un peu livrés à eux-mêmes et ont fait un enseignement autogestionnaire, ce qui était quand même assez révolutionnaire pour le coup. Et ensuite, l'école a été quand même assez réformée pour tenir compte de ces acquis de mai 68. Et notamment, ça a été la fin du régime de casernement, hein, parce que c'était plus qu'un internat. Les élèves avaient vraiment des conditions très très strictes de sortie, etc. Aujourd'hui, sur le nouveau campus beaucoup plus ouvert de Palaiseau, ils ont une vie beaucoup plus libre. Bon, ils sont toujours logés à l'école, mais ils pourraient découcher le soir que personne ne s'en apercevrait. Et par ailleurs aussi, les enseignements ont beaucoup évolué. Jusque, essentiellement, 68-70, les élèves suivent absolument tous la même formation. Il n'y a aucune option. Tous les cours sont essentiellement magistraux. Il y a très très peu de formations appliquées, pratiques, en petits groupes. Ça change complètement à partir de 1970, où là, il y a une multiplication d'options et de cours en petits groupes.
Et puis d'un seul coup, là aussi, dans les changements majeurs pour l'histoire polytechnique, qui devient un établissement public hein, dans ces années-là, 1971, c'est dans ces années également qu'arrivent des femmes à Polytechnique.
Pourquoi avez-vous choisi l'X ? À cause du prestige de l'école, mademoiselle Combel ?
Pas tellement, mais plutôt parce que les autres écoles que j'avais présentées, c'est-à-dire les écoles normales, mènent à la carrière, aux carrières professorales particulièrement, et je ne veux pas devenir professeur. Donc je préfère devenir soit ingénieur, soit faire de la recherche, si je peux.
Et vous ?
Moi aussi, c'est principalement pour la recherche. Je pense aller à l'étranger, et à l'étranger en général, le titre de polytechnicien est plus connu que le titre de normalien. Quoique les deux titres se valent quand même.
Et c'est pour vous une excitation intellectuelle de savoir que vous allez pouvoir atteindre les postes les plus importants de responsabilité ?
Oui, quand même, il y a un peu de ça quand même.
De mauvaise langue parle de la misogynie des élèves des grandes écoles. Est-ce que vous savez comment vous allez être accueillis par vos prochains camarades de l'X ?
C'est le mystère.
Non, en général, pendant les concours, ils étaient très gentils en général. Et les gens à l'intérieur de l'école sont très gentils aussi avec les
filles. Je crois qu'il faut préciser que vous avez l'une et l'autre 19 ans.
Oui, 19 ans.
Combien vont durer ces études ?
3 ans.
3 ans pour vous qui êtes française ?
Suivi de 2 années supplémentaires dans une école d'application qui peut être des écoles d'ingénieurs du type mine ou pont. Ou bien des instituts d'agronomie, ou bien le CNRS, ou bien... les possibilités sont très larges.
1972, cette femme entre à Polytechnique, et c'est Anne Choupinet qui devient major. Dans ce moment révolutionnaire, d'ailleurs, merci à vous deux, hein, Hervé Joly, Bruno Bellost, parce que je comprends maintenant, hein, préparation, concours, polytechnique, et ensuite, on a le choix de différentes écoles d'application. Maintenant, c'est un peu plus clair. Ça veut dire voilà, que l'école polytechnique, malgré sa stabilité, suit bien sûr les évolutions de la société.
Alors, elle les suit un petit peu contrainte et forcée. l'école n'était pas demandeuse d'accueillir des femmes. Et c'est un article de la loi adoptée en 1970 par le Parlement, première loi sur l'école polytechnique, qui prévoit l'admission possible des femmes au concours de l'école polytechnique, sans que ça ait été discuté dans les instances de l'école, qui ont d'ailleurs un peu tendance à s'en plaindre, trouvent que c'est précipité. Et en fait, c'est l'évolution de l'armée qui amène l'arrivée des femmes à l'école polytechnique. C'est que l'armée commence à s'ouvrir à la possibilité que des femmes fassent un service militaire volontaire, que des femmes deviennent élèves officiers, et du coup, l'école polytechnique est un peu obligée de s'ouvrir aux femmes. Et alors, effectivement, ce qui est spectaculaire, c'est qu'elle le fait avec cette chose extraordinaire qu'au premier concours de 1972, une femme est major de promotion.
Et voilà, Anne Chopinet, bravo à elle. La stabilité ici, et j'entends donc que c'est pas l'école polytechnique qui répond aux attentes de la société, mais c'est la société qui pousse un petit peu l'école polytechnique. C'est cette technocratie, Bruno Bellost, que vous évoquez, technocratie où désormais, voilà, nous formons une élite, mais une élite pour la République, avec beaucoup de gens qui vont dans le civil, dans le privé aussi.
Au 19e, oui, mais enfin, c'est pas quand même, ça reste quand même lié à l'État. Hein. Bon, au 20e, là, Hervé Joly, c'est l'expert. Hein. Beaucoup plus, effectivement, directement ou indirectement. Mais enfin, technocratie, ça évoque quand même quelque chose aussi, c'est des technos, quoi. C'est des gens aussi qui, voilà, sont des technos. Des gens qui ont une véritable compétence scientifique et technique. De très haut niveau. C'est ça qui fait la force, en particulier, enfin, encore aujourd'hui, il faut bien le dire, c'est quand même une école, de ce point de vue-là, exceptionnelle. De mon point de vue, je terminerai là-dessus, je pense que le plus important, c'est quand même que c'est une école qui recrute sur un concours très difficile. Et donc, c'est un filtre, en fait. Et c'est un filtre à tous les niveaux. Et à l'intérieur, c'est aussi un filtre pour classer, parce que le fameux classement de sortie.
Avec... le service de l'État, évident au 19e siècle, qu'il s'agisse des emplois civils ou militaires, mais liés à l'État. Et au 20e siècle, Hervé Joly, on voit des ouvertures vers le civil et le privé.
Oui, enfin, ça avait déjà commencé largement au 19e siècle, où plus d'élèves rentraient dans les corps civils ou militaires de l'État qu'aujourd'hui, mais beaucoup s'empressaient d'en sortir, notamment dans les corps militaires, où beaucoup n'avaient aucune envie de rester dans l'armée. Paradoxalement, d'ailleurs, alors que l'armée les traitait plutôt bien. Être polytechnicien et faire l'ensemble d'une carrière militaire, c'est terminer sa carrière au pire colonel et au mieux général avec plusieurs étoiles. Donc, y avait, les polytechniciens n'avaient absolument pas à se plaindre de l'armée, mais il se trouve que beaucoup n'avaient pas très envie de faire une carrière militaire. Il y avait les contraintes de la vie en garnison, des changements fréquents. Beaucoup de polytechniciens étaient parisiens et n'avaient pas envie d'une vie provinciale dans une caserne, etc. Donc, pour ça que beaucoup quittaient assez rapidement, souvent, les corps militaires et également les corps civils. Beaucoup d'élèves, d'ingénieurs des mines ou des ponts et chaussées faisaient passer des carrières dans le secteur privé qui était toujours, déjà à l'époque, beaucoup plus rémunérateur.
La formation en révolution, puis après en stabilité, on l'entend bien. L'histoire de l'ingénieuse école polytechnique, une histoire qui est riche aussi, et c'est important, de symboles. Hein, l'uniforme, l'hymne, les chansons. Et c'est cette histoire-là qui plaît beaucoup aussi dans les théâtres de boulevard.
C'est l'école polytechnique, vive les gamins, les bêtas. Tous les gens qui nous font la nique sont autant de gros bêtas. Grâce aux équations de tous les degrés, nous gouvernerons un jour l'univers. Tout le monde aura, bon gré ou mal gré, le binocle et le tafer.
Binocle, binocle,
binocle, bicorne.
Voilà les symboles de l'if,
voilà de l'if.
Binocle, binamétiforme,
binocle, bicorne.
Voilà quels sont nos trois points fixes.
Vive notre chère école, paradis des grands cerveaux, hors des amphis et d'école, les hommes sont tous des beaux. À Balripide et Sophocle, bicorne, binôme et binocle. Voilà, voilà les symboles de l'X.
Vol de l'X,
vol de l'X,
vol de l'X,
vol de l'X,
le de l'X,
le de l'X.
Vive
suivent les droites et les courbes. Orlix, il n'est point de salut.
Tous les autres sont de la tourbe et nous sommes les élus. L'école centrale et ses ingénieurs osent nous lancer leur petit défi.
Mais nous ferons fi de tous ces brailleurs et nos fils feront fi de leurs fils.
Binoclobine à Bédicorne,
Binoclobine,
voilà les symboles de l'X,
voilà de l'X.
Binoclobine à
Bédicorne,
voilà quels sont nos trois points fixes.
Vive la poche, chère école, paradis des grands cerveaux, en désamphite et d'école, les hommes sont tous des veaux. Avare, Ripide et Sophocle, Bicorne, Binôme et Binocle, voilà les symboles de l'X.
La marche des polytechniciens, c'est le duo Marc et André, Marc Chevalier, André Schlesser. Ici, c'était pour une pièce, La Tour Eiffel qui tue. Rien que le titre, je le trouve absolument sensationnel. Donc dans les années 1950 et aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique, Nicolas Leroulet. Et dans cette chanson de Marc et André, on a entendu « Nous allons gouverner un jour l'univers ». Eh bien là, Bruno Bellos, on retrouve votre technocratie, c'est un peu ça, l'ambition. Y a-t-il une ambition polytechnicienne avec des systèmes de réseau, de recrutement, pour se placer un peu dans les différents corps de l'État?
Ce qui est sûr, c'est, là je me place un peu au plan, de ce plan-là, mais sur un plan aussi idéologique pour la période que je connais le mieux, c'est-à-dire au début du 19e siècle, c'est que l'école polytechnique a été quand même le berceau, si je puis dire, d'un mouvement très important qui est le saint-simonisme, qui est vraiment le rêve, que ce sont les industriels, les savants et les industriels, ceux-ci qui vont diriger la société. Les Saint-Simoniens ont recruté massivement, pendant ces années, autour de 1830, justement, à l'école polytechnique. Donc là, il y a ce rêve qui est mondial. Voilà, on va faire le canal de Suez, on va faire l'Occident, l'Orient, etc. etc. Donc, il y a une vision qui fait contraste avec le côté quand même très franco-français de cette école.
Elle est franco-française, cette école, d'ailleurs, au 19e siècle. C'est quelque chose, vous nous avez dit, Bruno Bellost, il y a une sorte de modèle de l'école polytechnique qu'on peut retrouver ailleurs, mais ça reste malgré tout très franco-français.
Oui. C'était un modèle, ça a été un modèle parce que justement, c'est des scientifiques de haut niveau qui se mettent à enseigner. Alors, de ce point de vue-là, ça a été un modèle. De ce point de vue-là, ça a eu une influence, par exemple, sur le développement dans un contexte très différent du système universitaire allemand, des grandes universités allemandes scientifiques. Mais, en même temps, c'est un modèle, mais ça n'a jamais cherché vraiment à recruter des élèves, ça n'a jamais cherché... c'est resté quand même très lié à cette filière militaire. Et ça l'est toujours, en fait.
Oui. L'école, tout au long du 19e siècle, recrutait peu d'élèves étrangers. Par exemple, dans la promotion 1901 que j'étudiais, il y avait un élève étranger, mais qui était un peu un élève invité, enfin qui ne faisait pas vraiment partie de la promotion. Alors aujourd'hui, il y a plus d'élèves étrangers. Un quart des élèves de la filière du cycle ingénieur polytechnicien sont des étrangers. Ça reste un problème. C'est-à-dire que l'école polytechnique n'a pas un recrutement international massif quand on regarde. L'essentiel des élèves viennent de trois pays. Le Maroc, où il y a des filières de préparation spécifiques pour l'école de polytechnique, le Brésil et la Chine. Il n'y a pas très peu d'élèves, par exemple, des autres pays européens ou de l'Amérique du Nord. L'école est une école un peu à part, qui a du mal à se classer dans le panorama international de l'enseignement supérieur. Donc, elle est aujourd'hui devenue une école aussi petite, parce que par rapport à ses grandes concurrentes, si on pense au Polytechnicum de Zurich, au MIT, etc., c'est une école qui est beaucoup plus petite, qui est beaucoup moins visible. Il faut voir que Polytechnique, sur ce plan-là, a beaucoup changé. Au 19e siècle, Polytechnique, c'était une école de masse. Puisque des promotions de 250 élèves, c'était énorme. Il y avait beaucoup plus d'élèves à Polytechnique qu'à la Faculté des sciences de Paris. Aujourd'hui, finalement, le rapport est complètement inversé. Polytechnique est une petite école par rapport à l'ensemble de l'enseignement supérieur et aux facultés des sciences. Donc, le rapport s'est inversé.
En 1901, pour cette promotion, Hervé Joly, que vous avez pu étudier, ils étaient combien à peu près ?
Ils étaient 180.
180, oui.
Alors, ce qui était plutôt une promotion... peut-être aussi un peu pour ça que ça me donnait moins de travail, que je l'ai choisi, qui était une promotion plutôt plus faible que d'autres. Il y en avait qui montaient à 250.
Oui, mais vous n'avez pas choisi cette promotion 1901 parce qu'il y en avait moins étudié. Vous êtes un bosseur 1901, c'est parce que c'est aussi la première du XXe siècle.
Voilà, c'est la véritable raison. Oui.
D'où viennent ces polytechniciens en 1901? Nous avons un profil type qui se dégage.
Oui, alors, c'est toujours un peu l'histoire de la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Il y a une surreprésentation des catégories supérieures, c'est évident. Il y a des enfants de polytechniciens, il y a beaucoup d'enfants de hauts fonctionnaires, de professions libérales, etc. Mais il y a quand même, alors, en sous-représentation par rapport à leur place dans la société, mais il y a quand même des enfants d'instituteurs, des enfants, quelques enfants d'agriculteurs, d'artisans. Enfin bon, il y a aussi un peu de recrutement populaire. On a du mal à voir les chiffres jusqu'à aujourd'hui. On a plutôt l'impression sur ce plan que la situation n'a pas forcément évolué favorablement. Un des gros problèmes de l'école polytechnique, alors on a peu de statistiques aujourd'hui. La seule statistique dont on dispose, c'est le nombre de boursiers qui réussissent le concours, boursiers de l'enseignement secondaire. Et le chiffre, encore en 2025, était de 11%. L'école s'est engagée à augmenter le nombre, mais c'est comme... pour la place des femmes qui est toujours de 18%. Là aussi, l'école s'est engagée à se féminiser, mais n'y arrive pas parce que ces viviers de recrutement, à la fois, sont peu populaires et peu féminins.
Et une fois que ces élèves ont réussi le concours, ils sont dans l'école polytechnique. La formation, donc, on l'a compris, hein, ça ne dure pas si longtemps que ça. Ce sont quelques années. Ambiance de la caserne au 19e siècle, ils sont dans... Oui, c'est ça, c'est une caserne.
C'est la caserne, avec tous les... D'ailleurs, il y aurait toute une... toute ce série de polytechniciens, cet argot, etc. C'est typiquement une ambiance de caserne.
Et une ambiance difficile, est-ce que c'est quelque chose de dur, polytechnique? Alors, dur pour le travail, ça, je l'entends, et c'est une évidence. Est-ce qu'il y a une discipline militaire qui s'impose aux élèves?
Oui, c'est strict. Les élèves, jusque aux années 60, ont très peu de permissions de sortie. On est encasernés à l'école. Alors, on ne peut en sortir pendant longtemps que le mercredi après-midi. Et le dimanche, à partir de 10h, on devait être de retour à 22h. Donc, on ne peut pas découcher de la semaine à l'école de polytechnique, même les élèves qui ont leur famille, qui habitent à Paris. Et encore, on ne sort le dimanche que si on n'est pas consigné, c'est-à-dire si on n'a pas été puni pour souvent des chahuts faits dans la semaine. Et dans ce cas-là, il y a même des élèves qui font de la prison. Il y a une prison à l'école polytechnique. Donc, non, c'est très, très strict. Alors, en même temps, avec les relevés de discipline le montre, enfin énormément de chahuts. C'est-à-dire que visiblement l'administration quand même laisse un peu faire. Enfin, on évite que la cocotte minute explose. Donc on s'amuse quand même beaucoup. Il y a des élèves qui arrivent à faire le mur. Il y a des élèves qui font des beuveries dans les chambrées, etc. Et bon, ils sont sanctionnés, mais pas finalement tant que ça, parce que bon, ça fait aussi partie du folklore.
Ah bah, faut une soupape de sécurité aussi au moment de réfléchir aux origines, aux débouchés des polytechniciens.
Nous sommes tous polytechniciens, c'est certain. Mais polytechniciens d'origine et d'opinion très diverses. Origine très diverse, c'est une des qualités du recrutement de l'école. Origine diversifiée encore davantage du fait de la guerre. Puisque parmi nous, certains ont participé en tant qu'acteurs à cette guerre et d'autres ne l'ont pas fait. Les opinions sont différenciées aussi, puisque nous sommes tous des anciens élèves de dernière année et que nous avons déjà, pour la plupart, fait choix d'une carrière et chacun sait que de cette école, si la plupart sortent ingénieurs, d'autres sortent prêtres, astronome ou chef d'orchestre.
Eh ben oui, pourquoi pas chef d'orchestre? C'est l'aspirant François Meyer en 1948. Donc la guerre dont il parle, c'est la Seconde Guerre mondiale, avec des débouchés divers. quand on sort de Polytechnique, on est sûr d'avoir quelque chose. Donc j'ai bien compris ici hein, que quand on est très bien classé, il y a le choix d'aller vers des études encore plus prestigieuses. Et puis après, bah, moins on est bien classé, et moins ça se passe bien. C'est un peu comme ça qu'on doit le saisir. Mais on reste polytechnicien toute sa vie après.
Oui, on reste polytechnicien, mais alors ça, effectivement, si on est moins bien classé, ça se passe moins bien. On ne peut en principe longtemps aller que dans les corps militaires où j'ai déjà dit qu'on n'était pas forcément maltraité, on pouvait faire de belles carrières dans l'armée, mais c'est souvent pas l'ambition des élèves. Alors les autres élèves, quand soit qui ne rentrent pas dans les corps, soit qui les quittent rapidement, c'est quand même le grand saut dans le vide ensuite. Hein. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que alors Bruno Bellos a dit bien sûr que la grande qualité de la formation technique de Polytechnique, mais c'est quand même une formation très généraliste, très peu appliquée. C'est une formation très théorique. Ils ont que des cours d'amphi. Donc, ce sont quand même des gens qui sont très peu préparés, par exemple, à l'industrie. Beaucoup moins que les élèves centraliens, par exemple. Et donc, ce saut dans le vide, parfois, est difficile. Alors, il y a les grandes entreprises qui aiment bien recruter des polytechniciens, les compagnies de chemin de fer, les grandes compagnies de gaz et d'électricité, etc., qui ont beaucoup de postes de commandement. Alors, les polytechniciens sont très bons pour les postes de commandement. Mais si vous voulez avoir des ingénieurs de terrain, vous n'allez pas recruter des polytechniciens. Donc, et le problème des polytechniciens, c'est qu'ils sont bons pour commander, mais qu'il ne faut pas tant de monde pour commander. Et donc, si on n'arrive pas à accéder aux postes de commandement, beaucoup se retrouvent à la quarantaine, cinquantaine, avoir des carrières un petit peu en panne où on ne sait pas très bien quoi leur faire faire. Parce que ce ne sont quand même pas des gens très pointus au plan technique. Certains peuvent se retrouver en difficulté. C'était tout l'intérêt d'étudier toute une promotion, de montrer que parfois, ce que l'on met en avant comme ayant fait des remarquables carrières jusqu'à des postes de PDG, etc., c'est un peu l'exception. Tous n'ont pas des carrières aussi brillantes.
D'accord. Donc, au moment de changer une ampoule, on n'appelle pas un polytechnicien, mais si on a besoin de quelqu'un pour commander quelqu'un d'autre changer une ampoule, on appelle le polytechnicien. Voilà. C'est bien ça. L'identité du polytechnicien et l'identification, ça, c'est quelque chose que l'on voit tout le temps, hein. Polytechnicien. En tout cas, ça crée cette forme de réseau et c'est ce qui renforce la technocratie, Bruno Bellost. On le sait bien, hein, se reconnaître, cette reconnaissance sociale et peut-être ses soutiens aussi.
Oui, c'est rêve de toutes les mères. C'est Flaubert qui disait dans
le dictionnaire des idées reçues.
Rêve de toutes les mères, ouais. Polytechnique. oui, bien sûr, c'est un prestige, ça avait déjà un prestige à l'époque. De ce point de vue-là, on reste quand même toute sa vie polytechnicien, puis on peut bénéficier quand même de réseaux qui existaient sans doute au XIXe siècle et qui existent toujours.
Oui, qui existent toujours.
Donc quand même, on reste... c'est quelque chose, d'être entré à Polytechnique, c'est quelque chose. Et c'est très difficile, il faut le reconnaître.
Et à l'étranger, ces polytechniciens sont recherchés, d'ailleurs. Vous faites la moue.
Oui, c'est pas toujours si connu, quoi. Bah donc, après l'école d'application peut jouer un rôle, mais c'est vrai que ça reste un problème.
École polytechnique, parce que c'était comme Bernard Attali, je crois qu'il dit ça, c'était très méchant. École polytechnique. Ah oui, école polytechnique de Lausanne. Ah oui. Voilà. Non, l'école polytechnique, malheureusement, c'est une institution qui n'a pas réussi à faire sa mutation. Moi, dans les années 80-90, je discutais avec des responsables qui essayaient d'ouvrir l'école sur le monde. Mais j'ai l'impression, je ne suis pas un expert, mais que ça n'a pas été quand même une très grande réussite.
Oui, il y a toujours le problème. Par exemple, si on pense à l'Allemagne, qui est un pays que je connais bien, un polytechnicien, c'est quelque chose d'incompréhensible. Parce qu'en Allemagne, un ingénieur n'est pas un ingénieur généraliste. Il est un ingénieur spécialisé en construction mécanique, en construction électrique, en chimie. Donc un polytechnicien, on ne comprend pas ce que c'est. Parce qu'il a justement cette dimension généraliste. Et aujourd'hui, l'école a toujours un problème. C'est-à-dire que voilà, elle est sortie plus ou moins de l'idée qu'elle formait que des élèves pour les services civils et militaires de l'État. De toute façon, à la sortie, il n'y a les corps de l'État aujourd'hui ne proposent des débouchés qu'à un cinquième des élèves. Donc, faut bien que les autres aillent faire autre chose. Mais ce qu'ils vont faire ailleurs n'est pas très clair, parce que par ailleurs, il y a toujours une obligation, comme ils ont été payés pendant leurs études, de faire 10 ans de service public. Mais si l'État ne leur offre pas de place dans les corps, comment peuvent-ils servir l'État pendant 10 ans ? C'est pas clair.
C'est pas clair, et en tout cas, l'histoire de Polytechnique avec vous est très claire, parce que Polytechnique, ça fait partie de notre imaginaire, de nos lieux de mémoire. Vous le disiez, Bruno Bellos, même si Polytechnique n'est pas dans les lieux de mémoire de Pierre Nora. Merci vivement à vous deux. Je rappelle l'histoire de l'école Polytechnique à la découverte. C'est votre ouvrage, Hervé Joly, ou encore à Polytechnique, la promotion 1901, ça c'est chez Flammarion, et Bruno Bellos, la formation d'une technocratie, et Polytechnique existe toujours. Merci vivement à tous les deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Prochain épisode, forestier et agronome à l'école pour planter les graines du savoir.
Et pour conclure en beauté, vous prendrez le polycopier sur mon bureau, contient une cinquantaine d'exercices.
Ici, nous cherchons essentiellement à étudier la biologie des parasites et ensuite, à voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour lutter contre les fléaux. Et puis ensuite, ce sont aux services forestiers de terrain à appliquer les décisions que nous avons prises.
La voie royale pour l'agriculture et l'agronomie dans le cours de l'histoire. Une émission préparée par Sidonie Lebeau, Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.